Session Pourquoi la métaphysique aujourd'hui par le Père Marie-Dominique Gouthière à Rimont. Première conférence le 8 mai 1997.
Alors je pense qu'on vous a expliqué un petit peu le déroulement de la session. L'horreur, on ne vous l'a pas annoncé. Alors vous verrez, l'horaire est affiché. Je vous fais simplement remarquer qu'il y aura des petits groupes l'après-midi pour ceux qui le désirent, pour que vous puissiez poser vos questions avec quelques frères qui seront chargés de vous aider. Et puis, les questions pourront remonter pour qu'on puisse y répondre éventuellement dans les conférences si c'est nécessaire. Donc là, vous n'hésiterez pas. De même, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les rédiger et les poser sur le bureau. S'il y en a trop, je dirais, on verra ça plus tard. Parce qu'il faut quand même qu'on puisse avancer et essayer de réfléchir ensemble sur un sujet qui est très important, très difficile et très vaste. Alors, moi-même, je vous aiderai à réfléchir jusqu'à demain, soit demain après-midi, puis le Père Philippe vous rejoindra demain soir jusqu'à dimanche. Donc, on va essayer de préparer ensemble un petit peu ce qu'il vous dira. Alors, vous voyez, ce sujet qui vous est proposé, c'est un sujet très difficile et très vaste. Je dirais, il est très ambitieux. Pourquoi la métaphysique aujourd'hui? C'est quelque chose qui est très vaste parce que ça exige de traiter beaucoup de problèmes qui sont au cœur, peut-être, de tous les débats philosophiques d'aujourd'hui. Et pourquoi la métaphysique aujourd'hui? La question est posée de cette façon. Alors, on verra que pour répondre à cette question, il faut essayer de comprendre ce que c'est que la métaphysique, ou ce qu'on appelle la métaphysique. Et on verra déjà que ce terme est sujet à beaucoup d'équivoques et de controverses. Alors peut-être, vous voyez, quand on essaie de comprendre cette interrogation, pourquoi la métaphysique aujourd'hui, c'est-à-dire dans le monde d'aujourd'hui, tel que nous le vivons, est-ce qu'une philosophie de l'être, j'essaierai d'expliquer ce que ça veut dire, parce que déjà, ça veut dire qu'on prend une certaine orientation. Est-ce qu'une philosophie de l'être est encore possible? Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'elle s'impose à l'intelligence humaine? Oui, quand on est en philosophie, et on aura l'occasion d'y revenir, on cherche à connaître ce qu'est l'homme. Ce qu'est l'homme dans toutes ses dimensions, ce qu'est l'homme dans ce qu'il a de plus profond, donc dans sa destinée, dans sa recherche du sens de sa vie, dans sa finalité. Alors, où la métaphysique s'enracine-t-elle? Dans l'homme, dans la personne humaine, dans la recherche du sens de sa vie. Oui. Est-ce qu'une métaphysique est nécessaire pour l'homme d'aujourd'hui, pour essayer de comprendre ce qu'il est, ce pourquoi il est fait, ce vers quoi sa vie est orientée? Ou bien est-ce qu'elle est quelque chose qui est complètement périmé, dépassé, comme Heidegger le prétend? Heidegger prétend redécouvrir ce qu'il appelle une ontologie fondamentale. On essaiera de comprendre et de revenir sur ce terme, une ontologie fondamentale, en disant qu'après Kant et après Nietzsche, la métaphysique est dépassée. Alors, je crois qu'il faut faire un petit peu attention parce que, vous voyez, il y a ici une question de terme sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Quand Heidegger dit qu'il veut redécouvrir une ontologie fondamentale, son intention est très intéressante. Il dit, le rôle du philosophe, c'est de penser l'être. Et il ajoute, car la métaphysique occidentale a oublié l'être. Il dit, elle se caractérise par son oubli de l'être, et c'est pourquoi la métaphysique est périmée, elle n'existe plus, elle est dépassée. Donc, je crois qu'il y a derrière cette question sûrement beaucoup de questions de langage, si vous voulez. Et il faut, au-delà des mots, redécouvrir la naissance de ce qu'on a appelé la métaphysique, et en comprenant que le terme a été très galvaudé, très périmé, alors en essayant de comprendre de manière beaucoup plus profonde comment la connaissance de l'être, comment la connaissance de ce qui est, et on essaiera de comprendre ce que ça veut dire, s'impose à l'intelligence humaine. Est-ce qu'il est nécessaire pour l'homme, aujourd'hui? Est-ce que ça a un sens encore aujourd'hui de parler d'une philosophie qui s'intéresse à l'être, qui cherche à connaître ce qui est en tant qu'il est? Et quand je dis cela, déjà, comme je le disais il y a un instant, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, bien sûr, je donne une certaine orientation à la métaphysique. Et je peux le poser de cette façon, Et on verra que c'est peut-être le grand débat que nous posent certains philosophes modernes. Est-ce que la métaphysique, ou ce qu'on appelle la philosophie première, ou ce qu'on a encore appelé l'ontologie, ou ce que Heidegger appelle l'ontologie fondamentale, vous voyez, hein, déjà des quantités de termes, métaphysique, ou bien philosophie première, ou bien ontologie, bon, je vais expliquer ces termes dans un instant. Est-ce que cette métaphysique, est-ce que cette philosophie première est une philosophie de l'être? Et qu'est-ce qu'on entend par là? Est-elle une philosophie de l'être? Est-elle une philosophie de l'esprit? Et comment comprendre l'ordre et le rapport entre ces deux problèmes? Est-ce que pour comprendre ce qu'est l'esprit de l'homme, nous avons besoin d'une philosophie de l'être? Ou bien est-ce que nous partons d'une philosophie de l'esprit qui intègre dans l'esprit, le problème de l'être. Et c'est comme ça que le problème doit être posé. Hein, et on essaiera de comprendre pourquoi. Il y a peut-être ici, vous voyez ici, deux grandes orientations, et vous le reverrez avec le père Philippe, parce que c'est le problème que pose ce qu'on appelle en métaphysique le problème de la personne humaine. Comment comprendre les rapports de l'être et de l'esprit? Comment comprendre les rapports de ce qui est et de l'intelligence de l'homme? Et je vous ai dit tout à l'heure, et j'y reviendrai longuement et à plusieurs reprises, le propre du philosophe, et ce qui intéresse le philosophe, c'est de chercher à connaître ce qu'est l'homme. Et c'est la grande question. Hein. Ce n'est pas seulement une question que pose Kant. Parce que ça, hein, c'est ce qu'on dit de manière courante aujourd'hui, que la question kantienne, c'est la question qu'est-ce que l'homme? Mais c'est une question que se posent les Grecs bien avant Kant. Hein, c'est la question que pose déjà Socrate. Socrate dit, dans un petit dialogue qui est écrit par Platon, mais qui relate le procès de Socrate, j'ai une sagesse, et cette sagesse est une sagesse humaine. Anthropine Sophia. Hein, j'ai une sagesse humaine. Et Aristote reprendra ce qu'il appelle une philosophie des choses humaines, où il montre que tout le propos du philosophe, c'est de s'interroger pour connaître ce qu'est l'homme. Dans toutes ses dimensions, sans en exclure aucune. Or, qu'y a-t-il de plus profond dans l'homme? L'homme, parmi toutes les autres réalités, il implique l'esprit, l'intelligence et la volonté. Oui. Et déjà, ces deux termes sont à expliquer. Hein, donc vous verrez ça quand vous traiterez le problème de la personne humaine. Comment comprendre ce qu'est l'esprit dans l'homme? Son intelligence, sa volonté. Hein, intelligence, capacité de connaître la vérité. Sa volonté, capacité d'aimer une autre personne humaine. Alors, posons-nous la question. Comment pouvons-nous parvenir à cette connaissance de ce que c'est que l'esprit? Qu'est-ce que l'esprit? Pour qu'on puisse comprendre en profondeur, qu'est-ce que la personne humaine? Parce que la personne humaine, qu'est-ce que c'est? C'est un être qui est esprit. C'est un être qui implique l'esprit. C'est une réalité existante qui a l'esprit, l'intelligence et la volonté. Et c'est pour ça, vous savez, il y a une petite remarque d'Aristote qui est extrêmement jolie, hein, qui fait comprendre bien des choses. Il dit, pour comprendre ce qu'est l'homme, il faut chercher à comprendre ce qui est propre à l'homme. C'est une évidence. Et il ajoute, ainsi, ce qui est commun à l'homme et à l'animal n'est pas proprement humain. Ce qui est commun à l'homme et à la plante n'est pas proprement humain. Par exemple, dormir et manger n'est pas proprement humain. Parce que la plante aussi mange. Oui, de manière très très différente. C'est pour ça qu'Aristote dit, hein, l'équivalent de la bouche pour la plante, ce sont ses racines. Alors vous voyez, elle a la bouche dans la terre, c'est pas très drôle. La pauvre, elle est la tête en bas, voyez. Puis elle s'épanouit au soleil. Alors Aristote a dit, tout ce qui est commun à la plante et à l'homme, c'est pas proprement humain. Tout ce qui est commun à l'homme et à l'animal n'est pas proprement humain, à savoir la vie sensible, les sensations, l'imagination, les passions. Voyez. Un chien peut être très très passionné. Quand il aboie, vous voyez ce que c'est que la passion. Il peut recommencer ça 20 fois de suite, ça ne le gêne pas, il recommence incessamment, il est dans la passion pure, pas beaucoup de jugement. Vous voyez, quand on voit, c'est très très instructif. Alors Aristote dit, qu'est-ce qui est proprement humain? Réfléchir sur ce qui est l'intelligence et la volonté. La vie proprement humaine, c'est une vie d'intelligence et de volonté. Donc vous voyez, quand on pose la question, pourquoi la métaphysique aujourd'hui? J'aurais envie de vous dire, de manière un peu provocatrice, la métaphysique n'a aucun intérêt si on prétend que l'esprit n'existe pas et si on prétend que l'esprit est périmé. La métaphysique est nécessaire, Nous essayons de le comprendre pour essayer de découvrir ce qui est propre à l'homme. Et j'ajoute, seule la métaphysique, seule une philosophie réaliste qui s'achève dans une véritable métaphysique de l'être, nous permettra ultimement de comprendre en profondeur ce qu'est l'homme. Or, quand vous arrêtez un instant à cette question, vous voyez que c'est d'une importance capitale pour le monde d'aujourd'hui. Parce que tout le monde est d'accord pour dire, aujourd'hui, que la grande question qui se pose dans tous les débats d'aujourd'hui, c'est de revenir à la question « qu'est-ce que l'homme ?» Hein, on est confronté à de tels problèmes qu'on doit revenir à une source radicale et mieux connaître en profondeur qui est vraiment l'homme. Et des quantités de questions, d'ordre quelquefois extrêmement pratique. Alors vous voyez, l'enjeu il est là. Hein, et on essaiera de comprendre... C'est ce rapport-là entre l'être et l'esprit. Et là, il y a un enjeu qui touche un point de vue historique. Je peux dire, hein, pour faire rapidement, ceux qui connaissent peut-être l'histoire de la philosophie trouveront ça peut-être un peu caricatural, mais je le fais pour commencer. Hein, et après, on doit affiner les choses. Je dirais que du point de vue historique, il y a bien deux grandes positions par rapport à ce problème. Hein, il y a deux grands philosophes, si vous voulez, ou deux grandes positions historiques qui mettent le débat de manière extrêmement... Qui manifeste le débat de manière extrêmement intéressante. Je dirais, le grand philosophe qui développe une métaphysique de l'être et qui est celui qui est la source de toute une ligne de pensée dans la philosophie occidentale, le premier qui développe ça, c'est Aristote. Alors, j'y reviendrai parce qu'Aristote n'est pas absolument le premier. Aristote a un prédécesseur fameux quand il s'agit de métaphysique dans la philosophie de l'être, c'est Parménide. Parménide, c'est à peu près 6e siècle avant Jésus-Christ. Parménide est le premier à dire que pour comprendre ce que c'est que la pensée, il faut regarder l'être. Il a cette fameuse affirmation, c'est le même penser et être. Alors comment comprendre cette affirmation? Il veut dire que je ne comprends parfaitement ce que c'est que la pensée que face à l'être. Seul ce qui est peut être connu. Je ne peux pas connaître quelque chose qui n'existe pas. Hein, c'est pour ça que Parménide a cette affirmation très, très, très fameuse. Hein, le non-être n'est source d'aucune recherche. Seul l'être est source d'une recherche de la vérité. Ce qui n'est pas ne peut pas être connu. Il n'est donc source d'aucune pensée. Hein, c'est pour ça que Parménide ajoute, il reste donc, il y a cette espèce de raccourci saisissant, hein, il reste donc comme seule voie, hein, je vous le cite textuellement, comme seule voie de recherche à penser, deux points, il est. Il reste comme seule voie de recherche à penser, hein, je traduis littéralement, de recherche de ce que c'est que la pensée, de recherche pour penser, cette affirmation, il est. Donc, esti, hein, il est. Oui. Et c'est Parménide qui a introduit le premier en philosophie le terme einai, être. Le mot être est introduit dans le langage philosophique par Parménide. Il est le premier à parler d'une philosophie de l'être. Ensuite, quelqu'un qui va surtout développer ça, c'est Aristote. Hein. Aristote qui dira cette chose très étonnante sur laquelle je reviendrai cet après-midi. Aristote dit, si on fait de la philosophie première... c'est-à-dire ce que nous appelons métaphysique, je reviendrai aussi sur ces deux termes, si on fait de la philosophie première, c'est pour connaître ce qui est séparé. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Ce qui est séparé de la matière, à savoir, pour lui, le nous, donc l'esprit, et Dieu. Seule une métaphysique de l'être, pour lui, nous permet de comprendre ce que c'est que l'esprit, le nous grec, hein, qui vient du verbe noein, qui veut dire penser. Pour comprendre ce que c'est que l'esprit, et pour ultimement chercher à connaître qui est Dieu, il faut nous efforcer d'entrer dans une philosophie de l'être, dont Aristote donne le premier la structure scientifique. Alors, je vous exposerai ça très rapidement cet après-midi, parce que notre propos n'est pas de faire une recherche historique, mais il faut quand même avoir quelques éléments pour voir l'enjeu. Alors, je dis, vous voyez, qu'Aristote est la source de toute cette grande ligne, de toute cette grande tradition, si vous voulez, d'une philosophie réaliste qui dit que la métaphysique est une philosophie de l'être et qu'elle est faite pour nous permettre de comprendre ce que c'est que l'esprit. Et donc, l'enjeu, il est là. Pour Aristote, seule une philosophie de l'être nous permet de comprendre ce qu'est l'esprit. Donc il y a un ordre. L'être est premier, l'esprit est second. Au sens où l'esprit est relatif à l'être. Qu'est-ce que l'intelligence ? Capacité de connaître la vérité, donc capacité de connaître ce qui est. Pour saisir ce qu'est l'esprit, regardons ce qui spécifie notre intelligence, ce qui vient déterminer notre intelligence dans ce cas le plus profond. Pourquoi notre intelligence est-elle faite, aux yeux d'Aristote, pour connaître ce qui est ? C'est pour ça qu'il dira, la philosophie de l'être, c'est une philosophie qui regarde, je vous le donne en grec, le « toon » et « on », parce qu'il faut faire un peu de grec pour la métaphysique. Ça fait bien. « Toon » et « on ». Ce qui est, « toon » et « on » en tant qu'il est. La métaphysique, c'est connaître ce qui est, donc la réalité existante, nous avons l'expérience, en tant qu'elle est. Alors là, vous voyez, c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'Aristote reconnaît qu'il y a diverses parties de la philosophie. La philosophie ne s'identifie pas à la métaphysique. La métaphysique, c'est une partie de la philosophie pour Aristote, c'est le sommet de toute la philosophie. Toute la philosophie regarde ce qui est pour Aristote. Et là, il est un héritier de Parménide. Je ne peux penser qu'une réalité existante, le possible métaphysique, n'est pas connaissable. Cela regarde l'artiste, mais pas le philosophe. L'artiste regarde ce qu'il pourrait faire, l'œuvre qu'il pourrait réaliser. Il regarde donc le possible réalisable. Il a une idée de ce qu'il va faire. Tandis que le philosophe regarde ce qui est la réalité existante dont nous avons l'expérience. Toute la philosophie regarde ce qui est. Mais je peux regarder ce qui est sous différents points de vue. Et je peux vous regarder tout de suite, par exemple, si je vous regardais d'un point de vue éthique, si je fais une session d'éthique, qu'est-ce que je regarde en éthique ? Le volontaire. Je regarde ce qui est en tant qu'il est capable d'une activité volontaire. Quand je suis en métaphysique, je regarde ce qui est en tant qu'il est. Alors, on essaiera de voir, ce sera notre recherche pendant ces deux premiers jours, comment naît cette recherche. Qu'est-ce que c'est que connaître ce qui est en tant qu'il est ? Quel est le point de départ de cette connaissance ? On y reviendra. Ça, c'est la première grande ligne. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qui est un héritier d'Aristote et qui l'a repris en s'y attachant avec beaucoup de force ? C'est saint Thomas. Saint Thomas se met à l'école d'Aristote pour essayer d'entrer dans cette métaphysique de l'être, comprenant que pour lui, une métaphysique de l'être est nécessaire pour élaborer une théologie chrétienne. Donc là, ça vous pose une question, dont je sais que le père Philippe a l'intention de vous parler. Est-ce que pour le chrétien, pour celui qui vit d'une foi chrétienne, une métaphysique est nécessaire ? Saint Thomas est le premier à poser cette question avec beaucoup de force, en montrant qu'il est nécessaire d'avoir une métaphysique pour faire une véritable théologie chrétienne. Et là, dites-vous bien qu'on touche un enjeu majeur du monde d'aujourd'hui. Karl Rahner dit qu'en théologie, on doit remplacer la métaphysique par l'anthropologie. Donc c'est un des enjeux d'aujourd'hui. On ne veut plus du métaphysique aujourd'hui, en théologie chrétienne, la plupart du temps. Alors, est-ce que cette position est acceptable pour quelqu'un qui a la foi chrétienne ? Et c'est une question extrêmement importante. Je ne fais que l'effleurer pour le moment, mais c'est pour vous dire pourquoi la métaphysique aujourd'hui, il y a un enjeu purement philosophique, mais il y a aussi un enjeu pour la théologie chrétienne extrêmement important. Donc ça, c'est première grande ligne, si vous voulez, du point de vue historique. La deuxième grande position, si vous voulez, l'autre position, qui est représentée de manière capitale pour commencer par Descartes. Descartes inaugure la philosophie moderne. Descartes, donc Aristote, c'est 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc Descartes, 17e siècle. Après, bien sûr. Je dis ça parce qu'il y a peut-être des gens... Alors, vous voyez, Descartes, qui inaugure la philosophie moderne. Et vous savez, il y a cette fameuse affirmation de Descartes, dont je sais très bien qu'elle est sujette à beaucoup d'interprétations, notamment celle de Alquier ou celle de Guéroux, pour ceux qui sont un petit peu familiers de ces Sorbonnards. Mais vous voyez, Descartes renverse le problème et dit « cogito ergo sum ». Et donc, on a exactement l'ordre inverse. Pour Aristote, ce qui est premier, et mon « je pense » est relatif à ce qui est. Oui, c'est évident, vous voyez. Hein. Je dirais, c'est réaliste. Vous avez existé avant que je pense à vous. C'est mieux pour vous. Oui, si je disais que vous étiez le fruit de ma pensée, ce serait un petit peu inquiétant, ça veut dire que tôt ou tard, je me prends pour Dieu. Oui. Parce qu'il n'y a que en Dieu pour qui la pensée précède l'être. Nous existons parce que Dieu nous a créés, parce que Dieu a pensé à nous, si je suis dans un regard de sagesse. Mais au point de vue philosophique, je ne pars pas de Dieu. Dieu n'est pas un point de départ philosophique. Je ne mets pas la pensée avant l'être. Vous avez existé avant que je pense à vous. Et si je vous rends compte, je dis, quelle réalité existante étonnante, j'en ai jamais vu de comme ça. Alors, je cherche à vous connaître. Et ma pensée est relative à ce que vous êtes. Et être dans la vérité pour moi, c'est, est-ce que ce que je pense correspond à ce que vous êtes ? Et si ma pensée ne correspond pas à ce que vous êtes, vous allez vous charger rapidement de me corriger. Je vais dire, écoute, tu penses ça, t'es complètement à côté, mon pauvre ami. Donc, regarde un peu la réalité. Et c'est pour ça qu'on parle d'une philosophie réaliste, quand on parle d'Aristote. Où on reconnaît que la réalité est première par rapport à la connaissance qu'on en a. C'est simple. Hein. Vous avez existé avant que je pense à vous. Et je peux vous dire, et c'est aussi ma dignité, j'ai existé avant que vous pensiez à moi, grâce à Dieu. Ce qui me laisse mon autonomie substantielle dans l'ordre de l'être. Je suis autonome dans l'ordre de l'être. Tandis que je dirais, la grande position, vous voyez, moderne, hein, qui commence, je dirais, avec Descartes, c'est cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Et Descartes dira, en essayant de définir ce que c'est que l'homme est une substance pensante. Donc il y a un dualisme que Descartes introduit, où il fait de la pensée humaine une réalité substantielle. Oui. Et quelqu'un comme Hegel, dont je vous lirai un texte tout à l'heure, a parfaitement compris l'enjeu. Hegel dit textuellement, « À chaque instant de ma dialectique, je repose l'acte héroïque fondateur du cogito cartésien. » C'est extrêmement éclairant comme parole, je trouve. Hegel reconnaît qu'il est fils de Descartes. Et il dit que Descartes, pour lui, c'est le héros de la pensée. Et il y a donc ici un problème très très important. Et donc je vous recite cette parole de Hegel. Hegel, c'est un siècle et demi après Descartes. Hegel, il est mort en 1830. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez récent. Et Hegel dit donc, je pose à chaque instant de ma dialectique l'acte héroïque fondateur du cogito cartésien. Et donc ça veut dire pour lui que ce qu'il va définir comme l'idéalisme absolu, pour qui la subjectivité absolue est absolument objective, ça commence avec Descartes. Et mon je pense est identique à l'être. L'être n'est qu'un moment de ma pensée. Donc, vous voyez que l'ordre est inversé. Hein. C'est plus ce qui est premier et qui mesure ma pensée. C'est ma pensée qui est première et l'être est un moment de la pensée. Oui, là, je ne vais pas entrer dans ces subtilités dialectiques hegeliennes. Hein. Hegel dira, l'être est le premier moment de la pensée, c'est le moment de l'identité à soi de la pensée. Hein. Je pense. Et l'être n'est rien d'autre que l'identité de ma conscience dans mon « je pense ». Donc, il n'est plus question de l'être extérieur à ma pensée. L'être, ce n'est qu'un moment du développement de la pensée. Et donc, alors vous voyez que ça va très très loin comme position, parce que Hegel le dira de toute façon lui-même avec beaucoup de force. Il dira que dire cela conduit à affirmer de manière nécessaire que notre pensée est identique à celle de Dieu. Et ce qui est forcé, vous voyez, hein, parce qu'il n'y en a qu'un en qui l'être et la pensée sont absolument identiques, c'est Dieu. Et pour que mon « je pense », si je commence par « je pense », je commence par, je mets des termes peut-être plus faciles pour vous voyez. Quand je commence par le « je pense », je commence par ma subjectivité. Hein, égal à cette affirmation. Lit toute la philosophie moderne, c'est comprendre, c'est d'introduire dans la métaphysique le sujet, la subjectivité. Et ça, c'est Descartes. Descartes a le courage de dire « ma pensée est premièrement subjective ». Donc, « je pense », c'est subjectif. Et ma pensée mesure la réalité. Alors, Comment faire pour que cette subjectivité, je peux mettre cette sincérité, qui peut être très noble, hein, parce que c'est une sincérité de la pensée. Comment faire pour que cette sincérité devienne vérité? Comment faire pour que cette subjectivité pensante devienne objectivité absolue? Et c'est la question que pose déjà Descartes, et c'est la question que repose Hegel. Comment puis-je être sûr que mon « je pense » correspond à la réalité, puisque mon « je pense » est premier? Et si je pars du « je pense », je me coupe de la réalité extérieure à moi. C'est ce que fait Descartes. Descartes instaure le doute comme méthode philosophique. Hein. Et quand on dit doute méthodique, c'est très très fort. Hein. Descartes dit « ma méthode philosophique, c'est le doute ». Donc c'est le primat de la négation. Je mets tout en doute. Rien n'existe. Je ne peux m'appuyer sur rien. Je ne suis sûr de rien. Vous voyez, Descartes, c'est le petit roquet qui a très très peur et qui aboie. Il a peur. Il a peur que rien ne soit stable. Parce que, je vois la lune qui se lève à l'horizon, elle paraît ovale, puis après dans le soleil, elle est toute petite et elle est ronde. Alors, qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Je ne peux pas m'appuyer sur mes sensations, elles me trompent. Je mets tout en doute. Qu'est-ce qui résiste à mon doute? Une seule chose, je pense. Oui, c'est ça, hein, la méthode de Descartes. C'est dans les méditations que Descartes dit ça. Dans la troisième méditation. Je peux tout mettre en doute, sauf l'absolu de mon « je pense ». Mais alors, la question qui surgit immédiatement, si mon « je pense » est premier, je suis donc seul, seul face à ma pensée. Or, ma pensée est faite pour connaître la vérité. Qu'est-ce qui va me garantir que mon « je pense » est vrai, qu'il rejoint bien la réalité? Et c'est plus une question, c'est plus une recherche de la vérité, c'est une question critique. Descartes, en commençant par le « je pense », remplace la philosophie par une question critique. Qu'est-ce qui me donne la certitude que je vais être dans la vérité? Oui, c'est la grande question moderne. La question moderne est perpétuellement une question critique, qui est de savoir comment pouvons-nous être sûrs que notre pensée rejoint bien le réel. Qu'est-ce qui nous le prouve? Et on ne cherche plus la vérité, on cherche une certitude. Ça, c'est une chose capitale, vous voyez. Je pourrais dire Aristote, philosophe de la vérité, comme tous les Grecs, hein, ce n'est pas l'apanage d'Aristote, tous les Grecs disent qu'ils cherchent la vérité. Descartes dit « je cherche la certitude ». Comment puis-je être certain que mon « je pense » est absolument objectif? Alors, vous savez, la recette que donne Descartes. Hein. Descartes dit, c'est dans la cinquième méditation, « Dieu est le créateur de ma pensée ». Dieu est le créateur de la réalité qui est en dehors de moi. Or, ce Dieu ne saurait être trompeur. Il est donc le garant de la correspondance entre mes idées, entre mon « je pense » et la réalité extérieure à moi. Et donc, Dieu devient le point de passage obligé. Dieu est le garant de la certitude cartésienne. Oui, pauvre Dieu. C'est plus Dieu, alors. Dieu est une clé critique de la pensée cartésienne. Et c'est... Et il y a une expression qui est peut-être un peu caricaturale, mais qui n'est quand même pas trop mauvaise. Pour Descartes, Dieu est le gendarme de la pensée. Il règle la circulation, il fait les liens entre les deux. Et donc, Dieu n'est plus une personne qu'on cherche à contempler. Il est un garant d'une certitude. Alors, Hegel reprend exactement la même chose, mais Hegel va beaucoup plus loin. Et il dira, qu'est-ce qui me garantit que ma pensée subjective, est absolument objective, c'est justement que ma subjectivité est absolue. La subjectivité absolue est absolument objective. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est la pensée de Dieu. Et Dieu, je pourrais dire ça, hein, Dieu, ce qu'il pense, cela existe. Ce qu'il pense, il le fait, il le réalise. Donc, en Dieu, sa pensée précède l'être. Notre être de créature. Et donc, c'est pour ça que c'est très intéressant que Hegel dit « La seule solution pour que la subjectivité de ma pensée soit objective, donc pour que mon « je pense » qui est premier rejoigne ce qui est de manière objective, c'est que mon « je pense » soit absolu. Or, cela n'est vrai que de Dieu. Seul en Dieu, la pensée est absolue. Donc, cela, pourquoi pour Hegel? Parce que, comme chrétien, j'ai en moi la pensée du Christ. Et c'est pour ça que Hegel dit, il y a un seul homme qui peut dire en toute vérité que son « je pense », c'est ce qui est, c'est le Christ. C'est pour ça qu'il dit « je suis la vérité ». Et c'est pour ça que je trouve quelqu'un qui est, je trouve un grand interprète de Hegel, qui est bourgeois, qui enseigne en Sorbonne à Paris, dit « Si la question de Kant, c'est qu'est-ce que l'homme, la question de Hegel, c'est qu'est-ce que l'homme Dieu ?» Et ça, je trouve ça très très intéressant. Et c'est l'enjeu, oui. Quand on pose la question « Pourquoi la métaphysique aujourd'hui ?» C'est pour comprendre de manière beaucoup plus profonde que l'être est premier par rapport à la pensée, sans quoi on est conduit à affirmer que l'homme s'identifie à Dieu. Et ça, c'est ce que dit Hegel. C'est l'enjeu hein, philosophique. Alors vous voyez, il y a ici un enjeu très important. Quel ordre mettez-vous entre les deux? Est-ce que c'est l'être qui est premier par rapport à l'esprit? C'est la question d'Aristote. Est-ce que c'est l'esprit qui est premier par rapport à l'être? C'est l'affirmation de Descartes qui culmine avec le système hegélien. Or, la postérité hegélienne en philosophie d'aujourd'hui, c'est les idéologies athées. La réaction contre Hegel, ce sont les idéologies athées. Donc l'enjeu, il est là. Oui. Je dirais, pourquoi la métaphysique aujourd'hui, si on voulait être polémique, on dirait, instaurons un débat entre Aristote et Hegel. Est-ce que nous avons une métaphysique de l'esprit dans la ligne de Descartes et de Hegel, donc une métaphysique absolument subjective. C'est un développement artistique de notre pensée qui conduit à une espèce d'idéologie. Ou bien, est-ce que nous voulons retrouver ce réalisme très simple de l'intelligence humaine qui reconnaît qu'elle est faite pour connaître ce qui est? Et oui, pour le chrétien, c'est une chose capitale, parce que est-ce que Dieu est le fruit de votre pensée, ou bien est-ce que Dieu est quelqu'un à vous contempler dans son mystère? Oui, la question, elle se posera comme ça pour le chrétien. Est-ce que la foi peut assumer n'importe quelle philosophie? Ou bien est-ce que la foi ne peut assumer qu'une métaphysique réaliste qui reconnaît le primat de l'être sur la pensée? Oui, c'est ça la question de la théologie d'aujourd'hui. La question fondamentale, c'est celle-là. Parce que c'est retrouver une foi contemplative, une foi qui respecte le mystère de Dieu qui est au-delà de ce que nous en connaissons. Si vous dites que votre « je pense » est premier par rapport à l'être, vous finirez même par dire que Dieu est le fruit de votre pensée. Et c'est ce qu'ont très bien compris les disciples de Hegel, qu'on appelle la gauche hegelienne, qui disent « mais Hegel est athée ». Hegel aurait été furieux qu'on dise ça. D'ailleurs, on l'a accusé d'athéisme de son vivant, il a répondu dans des choses extrêmement virulentes. « Mais c'est faux, c'est l'inverse. Je suis au contraire extrêmement respectueux du mystère de Dieu. » Mais il ajoute « je suis luthérien, donc il n'y a plus que la foi. » Et c'est pour ça que c'est très important comme problème. L'enjeu, il est ultimement par rapport à la sagesse, donc par rapport à la connaissance de Dieu, et il est fondamentalement par rapport à la personne humaine. Et l'enjeu, pour nous, c'est qu'est-ce que l'esprit? Alors, pour ce faire, vous voyez, je voudrais vous donner peut-être deux, trois aperçus pour vous montrer, et ce sera peut-être un petit peu plus facile. Hein. Et pourquoi c'est une question qui se pose de manière tellement importante aujourd'hui? Quel est le contexte d'aujourd'hui? Et qu'est-ce qui fait qu'une philosophie réaliste est archi-nécessaire aujourd'hui? Pourquoi le monde d'aujourd'hui nous invite-t-il à retrouver une véritable philosophie? Et je crois qu'on peut dire que c'est l'urgence la plus grande du monde d'aujourd'hui au point de vue de l'homme. Bien sûr, si on est chrétien, on dira qu'il y a d'autres, une urgence encore plus profonde qui est le salut surnaturel de l'homme. C'est entendu. Mais l'homme peut-il être transformé par la grâce s'il n'est pas humain? Et il y a une question donc fondamentale, si vous voulez. La question que pose le monde d'aujourd'hui, c'est une question qui invite à retrouver une véritable philosophie réaliste. Et cette philosophie réaliste, on verra, elle culmine, elle trouve son sommet dans ce qu'on appelle la philosophie première ou la métaphysique. Donc la question qui va se poser à nous, comment la métaphysique, comment la philosophie première va-t-elle naître? Et pourquoi est-elle nécessaire dans le monde d'aujourd'hui, d'une manière particulièrement urgente? Alors, on essaiera de voir quel est le contexte d'aujourd'hui qui invite à réfléchir là-dessus. Alors, donc, je continuerai ça cet après-midi. Je vous lirai un ou deux textes, pas trop, parce que je ne vais pas trop m'attarder dans un point de vue historique, mais pour vous situer le débat, et puis pour affiner un petit peu ces deux positions que je vous donne de manière exprès, extrêmement, vous voyez, marquée. Il y a un débat, je dirais, il y a deux philosophies possibles, et l'histoire de la philosophie occidentale le montre. Ou bien une philosophie réaliste qui culmine avec Aristote. Ou bien une philosophie de l'esprit qui s'origine de manière très très lointaine chez Platon, dans le néoplatonisme, et qui est surtout repris de manière extrêmement forte par Descartes et Hegel. Vous voyez, le débat, il est déjà chez les Grecs, vous savez. Hein. C'est, en philosophie, on n'invente pas des choses nouvelles tous les jours. Et le grand débat qui est déjà chez les Grecs, c'est l'opposition entre Platon et Aristote. Oui. Aristote, toute sa vie, a écrit des quantités de choses face à Platon. C'est pour ça qu'on doit connaître Platon pour comprendre Aristote. Il faut avoir lu Platon si on veut lire Aristote. Parce que Platon, Aristote, on voit qu'il y a des quantités de questions d'Aristote qui ne s'explicitent parfaitement que comme des remarques pour montrer l'erreur de Platon. Il y a des pages fameuses, des colères fameuses. Les colères philosophiques sont quelque chose, que ce sont des rages froides. Et c'est pas du tout, c'est quelquefois très passionné, mais c'est pas passionnel. C'est extrêmement intelligent, souvent. Et les colères d'Aristote contre Platon sont quelque chose de redoutable. Et on voit que dans les grands moments de sa philosophie, Aristote éclaire l'erreur de Platon. Et en éthique, il dit « le bien en soi, ça sert strictement à rien. C'est un idéal inaccessible. En politique, le communisme de Platon, c'est un mythe. En métaphysique, parler des idées en soi, c'est faire des métaphores poétiques et produire du vent. » Vous voyez, Aristote dit ça. Hein. Il a des paroles terribles contre Platon. Donc ce débat, il est déjà chez les Grecs, entre Platon et Aristote. Mais Platon, il est sauvé par le fait qu'il reste un homme encore avec un sens religieux, etc. Donc il y a encore quelque chose de très passionnant. Platon est un très grand génie. Hein. C'est un éveilleur de problèmes philosophiques étonnants. Mais quand même, il est à la source, voyez, fondamentale de toute cette position qui a sa filiation. Hein. Platon, Descartes, Kant, Hegel, puis ensuite les idéalismes modernes. Et donc là, ici, il y a des filiations très intéressantes. Alors on essaiera d'y revenir, hein, de bien comprendre ça et de voir l'enjeu. Et qu'est-ce qui est au cœur de ça? C'est l'homme. Est-ce que pour comprendre ce qu'est l'homme, on doit commencer par l'être pour éclairer ce qu'est l'esprit? Ou bien est-ce qu'on doit commencer par la certitude subjective du « je pense » Ce qui paraît très séduisant, c'est bien évident. Si on dit « si ce qui est propre à l'homme qui nous intéresse, donc c'est le « je pense ». Donc la tentation de dire « je commence par l'esprit ». Et c'est beaucoup plus séduisant que la pauvre philosophie réaliste qui commence par le « ceci est ». Oh, le caillou existe. Et puis, ça me dit quoi après en philosophie? Pas grand-chose. Ah, mais c'est pourtant très important. Et il y a un enjeu ici. Hein. Et ultimement, après l'homme, c'est le problème de Dieu. Est-ce que pour parler de Dieu en philosophie, nous devons commencer par une philosophie de l'être ou bien par une philosophie de l'esprit? Et l'enjeu est là. Hein. Est-ce que la seule voie d'accès par rapport à l'existence de Dieu, c'est une philosophie de l'être ou bien est-ce qu'on commence par une philosophie de l'esprit? Ça, les deux positions ont été traitées, et c'est capital d'y réfléchir.
Pour la métaphysique aujourd'hui, 8 mai 97, deuxième conférence.
Alors je vous ai dit ce matin, je vais y revenir, que quand on aborde le problème de ce qu'on appelle la métaphysique, je reviendrai tout à l'heure sur la question des termes qu'on emploie. On est un petit peu confronté à deux grandes positions, si vous voulez. Du point de vue historique, la position qui est un petit peu dans la ligne de celle d'Aristote, et puis celle qui, à mon sens, culmine avec la position de Hegel, qui prend son origine, bien sûr, dans le néoplatonisme. Alors peut-être, vous voyez, c'est pourquoi ce débat, ce débat que j'ai essayé de vous caractériser, en essayant de vous montrer que c'était peut-être le problème qui était le plus radical en métaphysique, qui est ce rapport entre l'être et l'esprit, entre l'être et la pensée. Et au fond, si vous voulez, toute la question philosophique dans ce cas-là de plus radical, c'est la question de la vérité. Le philosophe se définit toujours comme étant celui qui veut chercher la vérité. Et le problème de la vérité, au fond, il est ce qui explicite d'une manière particulière les rapports entre l'être et l'esprit. Mais comment pouvons-nous penser ce qui est? Comment pouvons-nous découvrir la vérité? C'est la grande question du philosophe. Le philosophe est celui qui cherche la vérité. Il se définit comme tel. Mais bien évidemment, on va donner au sens, au mot vérité, un sens qui va être quelquefois extrêmement différent. Et je pourrais à ce propos vous citer un texte de Hegel qui est très significatif, qui dit « On dit d'une manière courante, et quand il dit cela, il fait bien sûr allusion à la philosophie dite réaliste, on dit d'une manière courante qu'est vrai ce qui est conforme à la réalité dans notre pensée. » Oui, c'est la grande définition que reprend saint Thomas et qu'il reprend à Aristote. Veritas, le verum, c'est adequatio intellectus ad rem, l'adéquation de l'intelligence à la réalité. Est vrai si vous voulez, ma pensée est vraie si ce que je pense correspond à ce qui est. Oui, si je vous dis tout de suite, il fait un soleil resplendissant, vous dites non, ce n'est pas vrai. Et je prends un exemple exprès, très descriptif et terre à terre. Mais il y a des vérités beaucoup plus profondes, voyez. Quand je parle d'une certaine vérité sur Dieu, est-ce que ce que je dis de Dieu est vrai? C'est-à-dire, est-ce que ça correspond à cette res divina, à cette réalité qu'est Dieu? Donc oui, ça c'est l'aspect, si vous voulez, réaliste des choses. Où on reconnaît que notre pensée est relative à ce qui est, et donc que la vérité c'est est-ce que la pensée correspond et conforme à la réalité existante. Je n'entre pas pour le moment dans une question plus profonde qui est ce qu'on a appelé dans la scolastique le vrai ontologique. J'y reviendrai plus tard, ça. Ça, c'est le premier aspect. Et Hegel critique cette conception. Il dit, mais c'est pas tout à fait juste. Parce qu'en définitive, la vérité, c'est plutôt la conformité de la réalité à notre pensée. Ainsi, dit-il, on parle d'un vrai ami quand quelqu'un correspond vraiment au concept de l'amitié que nous avons. C'est très très extraordinaire, oui. C'est un renversement qui est, oui, une explicitation qui est poussée jusqu'au bout de ce qu'on voyait ce matin avec le problème de Descartes. Oui, pour Aristote, est vrai si je suis vrai, ma pensée est vraie, si elle correspond à ce qui est. Pour Hegel, là je vous assure, je ne caricature pas, je vous cite Hegel dans l'Encyclopédie, qui est sa grande œuvre, qui résume tout son système. Et il dit, on ne doit pas dire que la vérité, c'est la correspondance de l'intelligence à la réalité, c'est plutôt, est-ce que la réalité correspond au concept que j'en ai? Ainsi, un vrai ami, c'est celui qui correspond au concept de l'amitié. Ah oui, comme je l'ai déjà dit ce matin, ça n'est vrai que si je pose au point de départ de ma philosophie le problème de Dieu. Parce que Dieu, dans ses idées éternelles, mesure la réalité existante. Donc ça veut dire, si on pousse jusqu'au bout, et on y reviendra progressivement, que si on dit que la vérité, c'est la correspondance de la réalité à notre pensée, ça c'est vrai uniquement quand il s'agit de Dieu. Oui, Dieu pense à la réalité avant qu'elle n'existe. Et c'est pour ça que Hegel ajoute, il dit, c'est pourquoi le grand problème de toute l'histoire de la philosophie occidentale, celui qui résume toute l'histoire de la philosophie, et le problème, dit-il, qui pour lui est crucial et dramatique, C'est le problème des rapports entre l'être et la pensée, entre l'être et l'esprit. Oui, on pourrait très bien, hein, ce serait très intéressant de faire ça, prendre toute l'histoire de la philosophie occidentale, en essayant de voir comment les philosophes ont conçu ce rapport de l'intelligence, de notre pensée, avec la réalité existante. Alors je vous ai dit ce matin que pour moi, il y avait vraiment une question d'ordre. Alors, je voudrais préciser, parce que c'est en plus une question qu'on m'a posée, qui est sûrement très importante à bien voir, pour pas qu'on ait l'impression que, vous voyez, on prend un parti, puis qu'on exclut l'autre. C'est pas ça, la chose. Je vous ai dit qu'il fallait être attentif à une question d'ordre. Alors, posez-vous cette question. Et je crois qu'elle est très intéressante, et que ça résume peut-être le grand débat d'aujourd'hui, si vous voulez. Pourquoi la métaphysique aujourd'hui ? Pour répondre en profondeur à cette question de l'ordre que nous devons découvrir entre l'être et notre pensée. Comprendre le fondement radical de notre pensée pour qu'elle soit juste et rectifiée. Qu'est-ce qui permet à notre intelligence de s'épanouir pleinement ? Alors, oui, ici, quand je dis qu'il y a une question d'ordre, je peux vous poser la question de cette façon. Et je crois que ça peut être très intéressant. Si je commence par une philosophie de l'être, et j'essaierai d'exposer ce que ça veut dire, une philosophie dite de l'être, elle est capable d'assumer une certaine philosophie de l'esprit. Je vous l'ai montré ce matin. C'est dans la mesure où je commence par l'être, et on verra, par ce qu'on appellera le jugement d'existence « ceci est », et j'emploie à dessein cette expression « jugement d'existence », qui peut, il faudra préciser ce qu'on entend et ce qu'on met derrière ce terme. Le terme, on commence par le « ceci est ». Une métaphysique qui commence par le jugement d'existence « ceci est » est capable d'assumer une certaine philosophie de l'esprit. Parce qu'on le verra, l'esprit, dans ce qu'il a de plus profond, dans une philosophie réaliste, il est fait pour connaître ce qui est. Il faut donc saisir ce qu'est l'être pour comprendre ce qui vient spécifier, déterminer notre pensée. Oui. Il y a un adage fameux de saint Thomas, hein, que dans la maison on aime bien citer, et qui est très important à retenir, vous allez le retenir, mais il faut surtout le comprendre. C'est ça qui est important. Et c'est un terme qu'en plus que saint Thomas emploie et assume de la tradition de néoplatonicienne qui est d'Avicenne. Il a cette expression très souvent, hein, « primo cadit in intellectu ens ». Mais le père Philippe vous le répétera sûrement, en vous disant que saint Thomas le cite 175 fois, à peu près. Oui. C'est pas difficile à faire, vous voyez, surtout aujourd'hui, maintenant, c'est... Hein. Alors, je vous le traduis, hein, pour les gens qui ne sont pas latinistes. Primo cadit in intellectu ens. Primo, en premier lieu. Donc, cadit, tombe. Donc, ce qui tombe en premier dans l'intelligence, c'est ce qui est. Ens, je traduis à dessein ens par ce qui est, parce que saint Thomas le dit lui-même ce qu'il entend par là. Saint Thomas dit textuellement ens id est, id quod est. Ens, c'est-à-dire ce qui est. Parce que vous voyez, si je traduis littéralement ens, ça veut dire étant. Alors, dans le langage contemporain, quand on parle d'Heidegger, vous voyez, hein, on voit les choses qui pointent leur nez. Alors, il faut faire attention. Il ne faut surtout pas traduire dans le contexte contemporain ens de saint Thomas par étant, parce que ça serait un contresens complet. Pour saint Thomas, ens, c'est ce qui est. Ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est ce qui est. Autrement dit, notre intelligence ne s'éveille pleinement à sa vie propre, à ce pourquoi elle est faite, que quand elle connaît l'être, ce qui est. Et on verra, on précisera, en tant qu'il est. Autrement dit, dans la perspective réaliste, une métaphysique de l'être est ce qui permet de répondre et de développer l'appétit le plus radical et le plus fondamental de notre intelligence. Notre intelligence est faite pour connaître ce qui est. Et c'est en connaissant ce qui est qu'elle atteint ce pourquoi elle est faite, sa finalité qui est de connaître la vérité. Vous voyez, là il y a un ordre. Donc, vous voyez, quand je dis bien, hein, philosophie de l'être, qui assume une certaine philosophie de l'esprit. Alors, je vais revenir là-dessus tout à l'heure pour vous montrer les quelques points de rencontre où on voit ce lien entre l'être et l'esprit dans une perspective réaliste. Alors là, ce serait une très belle manière de ponctuer la métaphysique. Donc, je le ferai tout à l'heure, hein, on commencera. Tandis que si je commence par une philosophie de l'esprit, c'est-à-dire telle que je l'ai définie ce matin, qui est surtout mise en lumière par Descartes avec le cogito, hein, qui est développée, vous voyez, dans toute la tradition plutôt néoplatonicienne, est-ce qu'elle est encore capable d'intégrer une philosophie de l'être? Je dis non, mais parce que quand on commence par l'esprit, on ne rejoint l'être que l'être uniquement en tant que connu. Et si je commence par l'esprit, je ne connais de l'être, je ne regarde l'être que en tant qu'il est connu. Alors là, vous voyez, il y a un point qu'on touche qui est extrêmement important. Et il faut bien s'arrêter là-dessus un instant. Est-ce que vous êtes capable de faire la différence? Et si vous voyez ça, ça vous fait tout de suite comprendre le réalisme philosophique. Êtes-vous capable de faire la différence entre l'être, la réalité, je peux mettre, hein, la réalité existante, ce qui est, et la connaissance que j'en ai? Et ça, c'est extrêmement important. Donc, entre ce qui est, je mets bien tel qu'il est, et puis l'être en tant que connu. Alors, vous voyez, qu'est-ce qui me permet de bien saisir cette différence? Si on s'arrête un instant, on peut comprendre qu'il y a dans notre expérience humaine une diversité de connaissances. Et je peux vous connaître à différents niveaux. Cependant, vous êtes toujours une réalité existante qui existe en elle-même. Et je pourrais vous regarder comme philosophe. Et dans la philosophie, il y a une très très grande diversité de connaissances. Je peux vous regarder en éthique, en philosophie de l'art, en philosophie du vivant, différents aspects. Je pourrais vous regarder comme biologiste, comme physicien. Je peux vous regarder aussi comme un artiste. Oui, j'ai des connaissances différentes de la réalité. Et nul d'entre nous n'oserait prétendre que la connaissance qu'il a de la réalité est adéquate à ce qu'est cette réalité. Oui, c'est très important de saisir ça. Il y a une distance entre la réalité telle qu'elle est et la connaissance que j'en ai. Parce que ma connaissance humaine, elle a ce qu'on appelle en philosophie un mode intentionnel. Oui, ça c'est un des gros mots philosophiques. Hein. Et quelqu'un comme Husserl insiste beaucoup, beaucoup là-dessus, sur l'intentionnalité. Et c'est la séduction de la philosophie idéaliste. Oui, quand je connais la réalité, je porte en moi certaines choses de cette réalité. Je peux avoir de vous des concepts. Oui, quand je pense à quelqu'un, c'est pas parce que je pense à lui qu'il est réellement présent en face de moi dans son être. Donc il y a une certaine connaissance que j'ai de la réalité qui est relative à cette réalité. Et il y a des niveaux différents de connaissance. Oui, si votre connaissance était adéquate à la réalité, il y aurait une seule connaissance qui serait la connaissance identique à ce qu'est l'être. Eh bien, vous voyez, c'est ça qu'ambitionne l'idéalisme. L'idéalisme voudrait que la connaissance que nous avons de la réalité soit identique à ce qu'est la réalité. Le réalisme consiste à reconnaître que la réalité nous devance dans son être, que nous avons des connaissances différentes de cette réalité et des niveaux de connaissances différents. C'est pour ça qu'une philosophie réaliste respecte les niveaux de connaissances, ce que ne fait plus l'idéalisme. Vous savez, il y a une parole de Karl Barth qui est très impressionnante. En parlant de Hegel, il dit... Ce n'est pas tant le fait que Hegel ait découvert la méthode dialectique qui est important. C'est plutôt qu'il ait l'ambition que cette méthode soit absolument universelle et qu'il veuille enserrer dans cette méthode la totalité du réel. Ça, c'est l'ambition hegelienne. Oui, c'est très très fort. Ce que ça veut dire, qu'on refuse l'abstraction. On voudrait que la connaissance qu'on a de la réalité soit identique à la réalité. Et donc, c'est pour ça que j'insiste bien sur cet ordre. Oui. Si je commence par l'être, je vois que mon esprit, ma pensée, est relative à la réalité. Et j'accepte que mon intelligence se développe dans différentes connaissances. Il y a différents degrés du savoir. Il y a un ordre des sciences. Et on verra après, justement, qu'est-ce que la philosophie a de propre. Si je commence par l'esprit, je commence par ma connaissance. Je ramène donc l'être à l'être en tant que connu. Et je ne sors jamais de l'immanence de ma connaissance. Et donc, je me pose constamment cette question, comment faire pour que la connaissance que j'ai de l'être rejoigne l'être en lui-même? Mais si je n'ai pas commencé par l'être, je ne le rejoins jamais, vous comprenez? C'est très très important, vous voyez. C'est pour ça que je crois qu'on peut dire, hein, en faisant ça, je fais peut-être un raccourci, mais je crois qu'il est vrai. Une philosophie de l'être est capable d'assumer une philosophie de l'esprit. Une philosophie de l'esprit qui commence par l'esprit est incapable d'assumer une métaphysique de l'être. Alors, vous voyez, faites vos choix. Parce que ça veut dire quoi? Qu'on est capable, si on a une philosophie réaliste à l'école d'Aristote, d'assumer l'apport néoplatonicien en ce qu'il a de juste, comme l'apport moderne, et on va voir tout à l'heure, c'est notamment le problème de la personne. Tandis que si on commence par le cogito, par l'esprit, on se pose constamment la question « comment puis-je rejoindre l'être ?» et je ne le rejoins jamais puisque je l'ai quitté au point de départ. Je le mets entre parenthèses pour ne plus regarder que mon intentionnalité, que ma connaissance. Donc je reste constamment dans ce qu'on appelle en philosophie la critique. Quand je reste dans ce que c'est que l'être en tant que connu, je ramène toute la philosophie à une critique. Alors là, vous voyez, je vous pose encore une seconde question, et là, c'est peut-être plus simple et c'est capital à comprendre. Et je dirais, si vous avez compris ça dans cette session, ce sera un bon point en philosophie pour assainir le terrain paludéen de votre intelligence idéaliste. Oui. Vous voyez, quel ordre mettez-vous, quel ordre établissez-vous entre philosophie et critique? Oui. C'est la même question posée différemment. Oui. Est-ce que la philosophie est première et la critique seconde? Est-ce que la critique est première et le réel second? Oui. C'est un point extrêmement important. Et là encore, oui, c'est un débat philosophique extrêmement intéressant, hein, où on voit dans l'ordre qu'on établit entre les deux un discernement philosophique extrêmement important. Et dites-vous bien que c'est ce dont le monde occidental meurt au point de vue philosophique. Depuis Kant? Si on est dans une perspective réaliste, ce qui est premier, c'est la philosophie. Qu'est-ce que c'est que la philosophie? C'est la connaissance de la réalité. Et la critique est seconde. Pourquoi? Parce que je ne critique pas le réel, je critique la connaissance que j'ai du réel. Oui, ça, il faut que vous compreniez ça, c'est très très important. En tant que vous existez, vous êtes incritiquable. Et le réel est incritiquable, il est. Par contre, de quoi pouvez-vous faire la critique? De la connaissance que vous avez de cette réalité. Donc vous réfléchissez dans un second temps sur est-ce que cette connaissance que j'ai de la réalité, est-ce qu'elle est adéquate ou bien qu'est-ce qui est une erreur dans ma connaissance? Et là, c'est très important. Vous voyez, donc c'est la même chose. La différence entre l'être et la connaissance que j'en ai. Mais prenez vos expériences extrêmement simples, voyez. Vous faites spontanément ça quand vous connaissez un petit peu quelqu'un, vous le rencontrez pour la première fois, pour la seconde fois, pour la troisième fois, vous avez une certaine connaissance de lui. C'est le contact avec la réalité existante qui corrige la connaissance que vous en avez et elle s'approfondit au fur et à mesure que vous connaissez quelqu'un. Vous dites, ah oui, la première fois, j'ai posé tel jugement sur lui, c'était peut-être un petit a priori. J'ai dit, oh, celui-là, il a telle perspective. Mais attention, peut-être que vous n'avez pas vu la totalité de ce qu'il dit. Vous voyez, comme on critique si facilement a priori. Hein. Alors ça, c'est très intéressant. Commencer par la critique, c'est stériliser notre intelligence. Parce que c'est mettre le primat de la négation. Qu'est-ce qui rend notre intelligence féconde? C'est d'être au contact de la réalité existante. Parce que la fécondité de l'intelligence, c'est la connaissance de la vérité. C'est là qu'elle atteint ce pourquoi elle est faite. Sa finalité. Donc, oui, la philosophie est première par rapport à la critique. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Parce que la philosophie, c'est ce qu'on reverra tout à l'heure, repose sur le jugement d'existence. Ceci est, qui est radicalement présent dans toute expérience humaine. Et au sens strict, le jugement d'existence, ceci est, il est en deçà de toute critique. Il n'est pas critiquable. Je ne peux pas critiquer le jugement d'existence, ceci est. Je peux, oui, en critique philosophique, montrer son importance, mais il n'est pas critiquable, il est évident et il s'impose. Comme quelque chose qui est présent dans toute expérience. Vous savez, c'est une remarque que fait Aristote, déjà dans la métaphysique, hein, sous un autre point de vue, mais c'est la même chose. Quand il dit, je ne peux pas démontrer l'axiome de non-contradiction. Il est évident, je l'accepte ou je le refuse. Et si je le refuse, je ne peux plus penser, il n'y a plus de philosophie. Vous voyez, donc, par conséquent, je dois l'accepter. On ne peut le démontrer que par l'absurde. Mais c'est exactement la même chose de dire que le jugement d'existence ceci est au-delà de la critique. Il s'impose, je l'accepte ou je le refuse. Mais si je le refuse, il n'y a plus de pensée métaphysique possible. Je ne peux penser que ce qui est. Ce qui n'existe pas n'est pas connaissable. C'est bien évident. Je peux peut-être l'imaginer, je ne peux pas le penser. Ma pensée s'éveille au contact de la réalité existante. Et même s'il y a des connaissances qui sont très très fondamentales, elles impliquent fondamentalement, si elles relèvent de l'intelligence, le jugement d'existence. Oui, c'est la métaphysique qui va l'expliciter pour lui-même. Mais il est fondamentalement présent dans toute expérience humaine. Oui, quand je vous rencontre, ça implique le jugement d'existence. Quand je vous vois. Oui, pour l'homme, il n'y a jamais un exercice des sensations qui soit sans l'intelligence. Ça, c'est très très important. Il n'y a pas les sensations pures, comme pour l'animal. Il n'y a pas l'instinct pur, comme pour l'animal. Dans mes sensations, mon intelligence est présente. Parce que quand je touche cette table, je dis « ceci que je touche est ». C'est-à-dire que la vache, elle est dans son pré, elle ne dit pas « ceci est ». C'est très très important. Et c'est pour ça, vous voyez, hein, Aristote souligne avec beaucoup d'humour, dans l'éthique à Nicomaque, que l'animal ne prend pas plaisir à voir une chose. Il s'en fiche pas mal. Dit l'animal, le lion ne cherche pas à regarder le bœuf pour l'admirer. Ce qu'il veut, c'est simplement le poursuivre pour le manger, et la vue lui a simplement fait percevoir qu'il est à sa portée et qu'il peut le dévorer. Et s'il est trop loin, il reste tranquille. Mais c'est très très amusant comme remarque, c'est très naïf, mais c'est très juste. Chez l'animal, la vie sensible est au service de l'instinct. Elle est instinctive. Chez l'homme, la vie sensible est habitée par l'intelligence. Donc, vous voyez, ne faites pas de votre intelligence une chose qui réside quelque part. Descartes se demandait où était l'âme spirituelle, il cherchait si ce n'était pas dans l'hypophyse. Non, elle n'est pas localisée. L'intelligence est présente à